Le temps des écrivains, une émission proposée par Christophe Onodibio.
Bonjour, il est 17h et c'est le temps des écrivains, le magazine littéraire de France Culture. Aujourd'hui, un face-à-face entre deux auteurs qui, en cette rentrée littéraire, ont décidé d'explorer, chacun à leur façon, le mystère. Le mystère d'un homme, le mystère d'une destinée, le mystère d'une vie hors norme, qui a séduit peut-être ces écrivains et qui les a menés, en tout cas, à enquêter sur cet homme, ou plutôt ces deux hommes, chacun le sien. Le premier de ces hommes est un aventurier, millionnaire devenu clochard, fils de bonne famille déclassé jusqu'à devenir même un auteur, un écrivain. Il s'appelle Henri Girard, mais vous le connaissez sous son pseudonyme de Georges Arnaud, l'auteur du Salaire de la peur, et c'est le héros du nouveau livre de Philippe Génada, La Serpe. Bonjour Philippe Génada.
Bonjour Christophe.
L'autre est un médecin nazi, médecin si l'on peut dire, puisqu'il exerça à Auschwitz, où il avait la réputation de collectionner les yeux bleus. Il se livra à Auschwitz aux pires atrocités pour explorer pour le compte du Reich les secrets de la gémellité. Il s'appelait Joseph Mengele et il est le héros, si l'on peut dire encore, de la disparition de Joseph Mengele d'Olivier Guez. Bonjour Olivier Guez.
Bonjour Christophe.
Alors vous retracez la vie de Joseph Mengele dans ce livre qui paraît chez Grasset depuis les derniers combats opposant Wehrmacht et Armée Rouge en Pologne et la découverte au Brésil le 6 juin 1985 des restes du criminel de guerre dont la tête fut brandie, grouillante de verre, par le directeur du labo de la police médico-légale de San Paolo. C'est une cavale de 40 ans que vous nous racontez, où celui qui se livra absolument sans affect aux expérimentations les plus délirantes sur des femmes, sur des hommes et sur des nourrissons aussi, dans son laboratoire d'Auschwitz, aura connu cet homme tous les statuts, paria, certes, rat, mais aussi pacha, parce qu'il fut pacha, Joseph Mengele. Ce sont presque les pages les plus glaçantes de votre livre, Olivier Guez, celles qui décrivent avec détail comment le colonel Perón, persuadé que l'Argentine, au fond, pouvait tirer profit du jeu mortifère que se livraient les Américains et les Soviétiques, comment Perón donc accueillit à bras ouverts ces savants nazis qui pouvaient l'aider à doter l'Argentine de barrages hydroélectriques, de centrales nucléaires. Vous racontez dans ce récit son exil doré dans la Nazi Society de Buenos Aires, où l'international des criminels de guerre, les oustachis, les rexistes, les gestapistes, les pilotes de guerre aussi nazis, trinquent sur le pont des yachts. Et puis la chute de Mengele alors qu'il est traqué par les Allemands et puis par le Mossad, qui réussira à capturer Eichmann, mais jamais Mengele, alors qu'il l'avait repéré. Ce titre, Olivier Guez, mentionne une disparition. Est-ce qu'il n'est pas ironique? Dans la mesure où Mengele n'a au fond jamais vraiment disparu, on savait même où il était, il a plutôt été volontairement oublié.
Très peu de gens ont su où était Mengele, puisqu'en fait dans les années 50 il n'est pas vraiment recherché. Il apparaît après la Seconde Guerre mondiale sur une liste de criminels de guerre américaine, mais les Allemands ne le cherchent pas, parce qu'en fait il faut bien comprendre une chose, c'est qu'à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, Mengele est un moustique, dans le sens où des médecins ayant sévi dans les camps de concentration et d'extermination, il y en a eu des centaines. Et Mengele n'est pas un haut gradé, c'est pas un responsable militaire, et donc assez facilement il peut se cacher après la guerre et partir en Amérique du Sud, en Argentine pour commencer, à la fin des années 40. Dans les années 50, personne ne parle de l'Holocauste. C'est seulement à partir de l'arrestation, de l'enlèvement d'Eichmann en 1960 que sa vie va basculer.
Vous dites Holocauste, hein, parce que sur le terme, souvent, il y a débat. Certaines personnes n'aiment pas qu'on utilise Holocauste.
Il y a des fois, j'ai dit choix, il y a des fois, je dis Holocauste. Voilà, l'extermination des Juifs d'Europe, que j'emploie aussi de temps à autre. Et donc, en fait, Mengele disparaît finalement assez facilement à partir de la fin des années 40, lorsqu'il quitte l'Europe. Et puis après, il y a une deuxième dimension, c'est ce que vous évoquiez, c'est-à-dire l'idée de rat, c'est-à-dire à partir des années 60, il doit vraiment se cacher, où là, finalement, pour ne pas se faire arrêter, il doit disparaître, complètement, et parce qu'il disparaît, en fait, il va mourir bien avant son propre décès. Et c'est ce qui va le rendre fou, en fait, dans la deuxième partie, ce qui va accentuer sa paranoïa, son angoisse et son immense solitude.
Donc disparition quand même, parce que c'est vrai qu'à vous lire, on a l'impression quand même qu'il y a un certain nombre de témoins. On le voit revenir, par exemple, en Europe.
Oui, enfin, on le voit,
il se promène.
Trois personnes le voient revenir en Europe. C'est-à-dire, encore une fois, Mengele, à ce moment-là, est absolument inconnu au bataillon.
Sauf que Mengele étant aussi une entreprise familiale de machines agricoles, Mengele devient presque le VRP de l'entreprise de son père.
Absolument.
Dans la Pampa.
Absolument. Et, ouais. Donc Mengele vient d'une petite ville de Bavière qui s'appelle Günzburg, et l'entreprise Mengele est à peu près l'équivalent de Peugeot à Sochaux. Donc c'est vraiment un empire dans une petite ville. Ils emploient un nombre considérable d'habitants de cette ville, et en gros, ils font ce qu'ils veulent. Moi, je suis allé à Günzburg, par exemple, pour préparer le livre, et je suis tombé, par le plus grand des hasards, sur une piscine où il y a encore une plaque en remerciement du père Mengele, d'un des frères de Joseph Mengele, parce que c'est eux qui avaient financé la piscine. Mais comme ils ont financé des immeubles, des crèches, lorsque le père de Mengele, qui tenait vraiment l'entreprise, a fêté ses 75 ans, il a distribué des saucisses à toute la ville. Donc en fait, personne n'a jamais rien dit dans la ville. Alors, il y avait des rumeurs, bien évidemment. Mais encore une fois, à ce moment-là, Mengele n'intéresse personne.
Bonjour Philippe Génada.
Bonjour Christophe.
Je vous ai lu et aimé il y a bien longtemps.
Oh là.
Il y a bien longtemps, à l'époque du Chameau Sauvage.
On était jeunes.
On était jeunes, où déjà apparaissaient vos fameuses doubles, voire triples parenthèses. Alors on retrouve aussi ce trait stylistique génadien dans La Serpe, qui paraît chez Julliard. Et dans La Serpe, on retrouve aussi votre veine. Alors c'est pas la veine Chameau Sauvage, c'est votre veine de romancier enquêteur. Il y avait le livre sur le braqueur Bruno Sulac, le livre La petite femelle sur Pauline Dubuisson, condamnée pour le meurtre de son amant et immortalisée, si je puis dire, par Henri-Georges Clouzot dans La Vérité. Et après Pauline Dubuisson, mais vous parlez d'ailleurs de Pauline aussi dans La Serpe, vous intéressez à un autre individu passé sous les fourches caudines de la justice, Henri Girard. La Serpe, elle donne son titre au livre, c'est l'arme d'un crime, un crime horrible commis en 1943, sur le père, sur la tante et la domestique de cet Henri Girard. Alors, Henri Girard, ça te dira peut-être pas grand-chose à quelqu'un, parce qu'il a un pseudonyme, en fait, il s'appelait aussi Georges Arnaud, et c'est l'auteur du Salaire de la peur. C'est un homme aux vies multiples, qui était millionnaire, qui était désigné comme le coupable idéal de ce triple meurtre, finalement acquitté. Et le roman va être adapté au cinéma par, encore, Henri-Georges Clouzot.
Je poursuis.
Vous ne le quittez pas
C'est lui qui me poursuit. Ouais. Et je pense que cet homme, Clouzot, était un grand réalisateur, évidemment, qu'il a commis des chefs-d'œuvre. Mais je ne suis pas sûr qu'humainement, c'était quelqu'un de très fréquentable. Et en tout cas, moi, dans ces deux cas-là, c'est-à-dire aussi bien La Vérité pour Pauline Dubuisson, parce que vous dites il l'a immortalisé, il l'a aussi tué, à mon avis.
Il l'a tué, bien sûr.
Que dans le cas du Salaire de la peur, où Clouzot, pas une fois, n'a prononcé le nom de Georges Arnaud. Ah. Tout au début, il a dit oui, c'est adapté d'un livre. Et c'est ce qui crée aujourd'hui cette chose assez terrible. Et j'espère que si mon livre peut servir à quelque chose, j'espère entre autres qu'il servira à ce que les gens relisent Georges Arnaud, parce que Le Salaire de la peur est un livre magnifique.
Ouais,
c'est un roman noir.
Alors qu'à l'époque, en fait, beaucoup disent, bah, c'est du polar
oui,
un
c'est
peu.
C'est un sourd roman de gare. Mais moi, quand on c'est un ami du quartier.
Du mauvais polar, pardon, j'avais pas fini ma phrase. Polar. Non, du mauvais polar.
Mauvais polar, c'est ce qu'on pense. Hein, moi, quand un ami du quartier me dit, il faut que tu écrives un livre sur mon grand-père. C'est Georges Arnaud. Alors déjà, je me dis Georges Arnaud, est-ce que c'est le pont de la rivière quoi? Je mélange tout. Bon.
Et Pierre Boulle.
Voilà, Pierre Boulle. Il y a plein de dessins. Il me dit c'est l'auteur du Salaire de la peur. En face de lui, je me dis, oh, le pauvre, il a l'air fier. Et moi, j'étais persuadé, j'avais l'image du film que j'ai vu, je sais pas, il y a 20 ou 30 ans, j'étais persuadé que c'était un petit roman, vraiment un truc écrit vite fait, dont Clouzot avait tiré quelque chose de sublime. Quand j'ai lu le livre, j'ai pas réussi à me relever. Quoi. C'est-à-dire que vraiment, c'est un livre court, fort, poisseux, noir. Et du coup, j'ai revu le film après, et le film, j'ai l'impression de voir une opérette, quoi.
À Clouzot, vous ne l'aimez pas beaucoup.
Ah non, hein. Je ne l'aime pas.
Voilà, décidément. Alors, cet Henri Girard, devenu Georges Arnaud, vous nous racontez son histoire, donc il a été milliardaire, c'est quelqu'un de très très bonne famille. Il est devenu quasi clochard, militant FLN aussi, on le retrouve aussi autour de la cause algérienne. Vous racontez son histoire, mais vous vous mettez, vous aussi, en scène comme enquêteur, ça c'est la marque Génada. Il y a les parenthèses et puis la mise en scène de Génada enquêtant. Vous citez vos sources, il y en a beaucoup, il y a notamment tous les livres de Georges Arnaud, il y a une biographie aussi sur lui, d'un monsieur
Roger Martin.
Martin,
Roger voilà. Martin, vilain rebelle. Ça
exactement. Qu'est-ce qui vous a conduit à vous passionner pour cet être, jusqu'à y consacrer un roman, malgré le fait qu'il y avait eu autant de livres sur lui, toute une littérature, au fond, c'était archi-balisé.
C'était assez balisé, en tout cas le livre de Roger Martin, la biographie est extrêmement complet, je m'en suis d'ailleurs, je le remercie parce que je m'en suis beaucoup servi. Et puis, il y avait eu simplement un ou deux livres, disons, sur le crime en lui-même, le triple crime du château d'Escoire, et qui m'avaient semblé, au contraire, eux, assez incomplets.
Le château d'Escoire, hein, E-S-C-O-I-R-E, qui est le château où a lieu donc ce massacre à la Serpe.
Une quinzaine de kilomètres de Périgueux, en Dordogne. Ce qui m'a conduit à m'y intéresser, c'est d'ailleurs la raison de la construction du livre. Je sais pas, tout à l'heure, on parlera peut-être des ouvrages qui se basent sur les faits réels. Le plus difficile là-dedans, pour moi, c'est la construction, la narration. J'ai voulu que le lecteur suive le même chemin que moi, c'est-à-dire que quand mon ami du quartier là, me parlait de son grand-père...
Manu, qui
est Emmanuel Girard, qui est donc le petit-fils, ça fait 10 ans, à chaque fois qu'on va dîner chez lui, je dis à ma femme, tu vas voir qu'il va me redemander si je vais pas écrire un livre sur son grand-père. Il me disait, il a une vie romanesque par excellence, comme vous disiez, milliardaire, clochard, combattant, etc. Et je lui disais, c'est trop gros pour moi cette vie, c'est une vie trop lourde, trop les combats politiques, etc. Et un jour, il y a 2-3 ans, il me dit, au fait, j'ai oublié de te dire un truc, mon grand-père a été accusé d'avoir massacré à coups de serpe toute sa famille. Là, je me dis, ça peut m'intéresser, ça.
Pourquoi le fait qu'il y ait du sang?
Non, pas du sang. Ce que j'aime, et puis ce que j'aime raconter, sont les petits décalages, les petits dérapages. C'est pour ça que le livre commence sur une...
Ouais, un petit dérapage, un massacre à coups de serpe.
Oui, mais une crainte de crevaison de pneus quand je suis dans ma voiture. Enfin, voilà, c'est ça. Et je me dis, par là, je peux rentrer dans sa vie. Et donc, en passant par ce crime et tout ce que ça a eu comme conséquence sur son existence, et c'est pas peu... J'ai pu à la fois raconter le crime et une enquête. C'est un crime qui est quand même irrésolu puisqu'il a été acquitté.
Parce que la biographie le disait pas, tout ce côté de dérapage d'une vie, la biographie...
Si, mais j'ai lu la biographie. Quand mon ami m'a dit il est soupçonné d'avoir tué tout le monde, là je me suis intéressé à lui. C'est là que j'ai lu Le salaire de la peur, que j'ai lu tous les romans les ouvrages qui le concernaient. J'ai acheté des journaux d'époque. Et je me suis rendu compte au bout de 2 mois de recherche que c'était l'évidence même qu'il était coupable. Parce que vraiment, le château est fermé de l'intérieur, on dirait un truc faux, on dirait Agatha Christie. Château est fermé de l'intérieur, ils sont 4, toutes les issues sont fermées. Le matin, il y en a 3 massacrés et 1 intact qui ouvre les volets et qui dit au secours. Il est le seul héritier, il devient riche d'une minute à l'autre, du jour au lendemain. L'arme du crime, c'est une serpe. Très vite, les gendarmes se rendent compte qu'il l'a emprunté lui-même au voisin la veille. Quand le maire du village arrive dans le château, il lui propose des cigarettes, un coup de gnôle, il se met au piano. C'est le coupable idéal. Donc j'ai dit à mon ami, écoute, je suis désolé, mais finalement, je vais pas pouvoir écrire un livre sur ton grand-père. Je vais pas dire quand même qu'il a massacré toute sa famille. Et puis il y avait deux trois trucs qui me laissaient des doutes. Donc je me suis dit, ça me coûte rien. Je loue une voiture. Je vais à Périgueux où se trouvaient les archives du dossier d'instruction. Je vais passer une semaine là-bas. Si je constate que c'est vraiment lui le coupable, ben tant pis, j'écrirai pas le livre. Je vais pas faire de la peine à mon copain. Mais si je trouve quelques petits trucs, on sait jamais, peut-être que ça vaut le coup. Et voilà, je suis revenu avec la certitude qu'il était innocent.
Et vous nous direz ce que vous avez trouvé. Vous comprenez ça, Olivier Gasse, parce que vous aussi, vous avez travaillé avec des livres sur Mengele, que vous citez. Il y a une biographie, d'ailleurs, très importante. Ouais. Qu'est-ce que vous prétendiez, finalement, l'un et l'autre? On va commencer par vous, Philippe a en partie répondu. Apporter d'autres, de nouveaux ou de différents, sur un sujet, en plus c'est un sujet historique, aussi extrêmement balisé, cerné, sur lequel on avait publié.
Je sais pas. Moi, en fait, ça fait des années que je suis obsédé par l'après-Seconde Guerre mondiale, mais en fait, j'irai même plus loin, par l'après-1945. C'est-à-dire, c'est 85 millions de morts que l'Europe s'inflige, cette espèce de suicide européen, moi, continue de me sidérer, en fait. Et je probablement obsédé par cette histoire-là. Et donc, ça fait une dizaine d'années que je ne cesse d'ausculter, en fait, cet après, dans lequel on vit tous encore. Et donc, moi, je m'étais déjà intéressé au devenir des victimes, puisque j'avais écrit ce livre sur l'histoire des Juifs en Allemagne.
L'impossible retour.
Voilà, après la guerre. J'avais écrit un film sur un procureur qui avait traqué Eichmann en Argentine.
Fritz Bauer.
Exactement, Fritz Bauer, un héros allemand. Et là, cette fois, j'ai voulu attaquer, on va dire, le versant noir de cette histoire, c'est-à-dire le destin d'un coupable. Et ce qui m'intéressait, c'était de voir finalement ce que la vie avait réservé à l'un des pires criminels.
Oui, mais précisément, voilà, il y a une biographie de Mengele, il y a eu des essais, il y a eu des articles, il y a eu des livres, vous les citez d'ailleurs, vous ne vous en cachez pas, comme Philippe Genada. Vous dites, moi je vais dire des choses qui n'ont pas été dites sur ce versant noir, parce que je suis romancier.
Parce que c'est ma propre subjectivité sur le destin d'un homme, qui n'est pas, je veux dire, Mengele est un horrible criminel, mais c'est aussi le produit d'un système. Et j'ai voulu raconter cette histoire-là, disons, en faisant un travail littéraire. Je ne dirais pas en romançant son histoire, puisque tous les épisodes historiques du livre sont avérés historiquement. Par contre, mon traitement du sujet, ma propre subjectivité sur le destin de cet homme, par exemple, si on prend les années brésiliennes, donc quasiment 20 ans, de 60 à 79, lorsqu'il décède sur une plage brésilienne, justement. Ces années-là, elles tiennent en trois paragraphes. En gros, il passe d'une planque à l'autre, soutenu par sa famille, qui finance des gens, qui l'hébergent. Ça prend vraiment trois paragraphes. Puisqu'en fait, il disparaît véritablement de l'histoire. La grande histoire qui intervient dans la première partie n'est plus là. Par contre, c'est une matière littéraire fantastique. Cette espèce de huis clos, cette espèce de descente aux enfers, là, on est vraiment au cœur des ténèbres. C'est-à-dire que c'est un homme qui est rongé par sa propre solitude, par sa déchéance physique.
Qui se construit un mirador.
Par sa paranoïa. Ouais. Et mais effectivement, un petit peu comme Philippe, je suis aussi allé sur place, par exemple en Argentine, mais au Brésil, j'ai retrouvé la ferme où il s'est terré pendant 10 ans.
Et donc là, c'est le cerveau du romancier ou la sensibilité du romancier qui, devant les lieux, raconte autre chose qui n'a pas été raconté.
Mais qui ne peut pas être raconté, simplement, parce que personne ne saura jamais. Enfin, qui ne peut pas être raconté, c'est-à-dire un historien, puisqu'il s'agit d'une matière historique, encore une fois, tout ça tient en trois paragraphes. C'est-à-dire un historien va dire, voilà, il est avec cette famille du 12 septembre 62 au 8 octobre 68. Par contre, imaginez ce qui s'est vraiment passé dans cette ferme, puisqu'on a des indications, mais au quotidien, on ne saura jamais, personne ne saura jamais ce qui s'est exactement passé au quotidien dans cette ferme où il s'est terré, par exemple, pendant 10 ans.
Alors, il y a un mot important que vous avez prononcé, c'est imaginer. C'est vrai qu'en cette rentrée littéraire, particulièrement, les livres abondent, qui prennent appui sur un personnage réel ayant existé, alors de Gary à Ségalène, de l'épouse de Picabia à Magda Goebbels ou à Patty Hearst. On entend un mot qui revient, qui est le terme d'exo-fiction. Ou de fiction biographique. Vous, l'un comme l'autre, et je me tourne vers Philippe Génada, finalement, le mot fiction, vous le revendiquez quand même quand vous faites la SERP ?
Moi, non, mais justement, c'est ce dont je voulais parler, Olivier, c'est-à-dire quelle est la part de, peut-être pas de fiction, mais en tout cas d'imagination, parce qu'on suit, on marche avec Mengele. Est-ce que tu brodes simplement autour de quelque chose ou est-ce que c'est vraiment, tu t'appuies sur des choses vraiment tangibles?
Alors je m'appuie vraiment sur des choses tangibles. Il y a une très grosse bibliographie, énormément de lectures. Mais ça fait vraiment très longtemps que je travaille sur ces sujets. Ça fait une dizaine d'années sur l'après, notamment sur le devenir des nazis après la guerre, ce qu'ils sont devenus, notamment en Amérique latine. Après, évidemment, il faut lier certaines choses. Par exemple, Mengele a une liaison avec la femme de cette famille hongroise qu'il héberge pendant 15 ans.
Gita.
Voilà, Gita Stammer. C'est une espèce de ménage à trois absolument sordide au fin fond de la province brésilienne. Ok, il a une liaison où, quand, comment ça s'est développé, personne n'en sait rien, bien évidemment. Et personne ne le dira jamais aujourd'hui. Après, c'est à moi de la mettre en forme, de raconter cette liaison telle que moi je me la représente.
Sans garantie de vérité, puisque c'est vrai que là, parfois on parle de vérité.
Donc la vérité, c'est qu'il y a une liaison. Encore une fois, comment elle s'est développée, quand est-ce qu'elle a commencé, dans quelles conditions, ça, personne ne le saura.
Truman Capote, quand il écrivait De sang froid, alors il appelait ça un roman de non-fiction.
Absolument.
Mais le sous-titre, c'était quand même roman véridique d'un meurtre multiple et de ses conséquences. Il y a quand même véridique. Finalement, la question que posiez à Olivier, je vous la pose. Qu'est-ce que vous inventez, vous, par rapport aux faits ?
Rien du tout. C'est-à-dire que c'est une démarche différente, en fait, pour une raison toute simple, c'est que, en tout cas, mes deux derniers romans, on n'a qu'à dire, le sujet, c'est les apparences et ce qu'il y a derrière, ce qu'on a dit, les mensonges, etc. Donc moi, j'ai une contrainte, aussi bien pour Pauline Dubuisson, La Petite Femelle, que pour Henri Girard, c'est justement de ne pas me livrer ni à des interprétations, ni des modifications. Alors, ça donne peut-être une matière un peu moins romanesque, mais je tiens absolument à ce que chaque mot que j'écris, sur Henri Girard en tout cas, soit aussi authentique que possible, c'est-à-dire à la source, dans les dossiers d'instruction.
Quand il parle, il l'a vraiment dit?
Oui, ce sont des... Enfin, il l'a dit, en tout cas, le policier qui était en face de lui l'a recopié de cette manière. Après, pour le reste, c'est-à-dire moi, mon intervention, c'est un roman, parce que moi, voilà, je pars en voiture... Personne ne sait si c'est vrai ou pas, la manière dont j'ai mené l'enquête en petit Colombo du dimanche, etc. Mais en tout cas, moi, j'aime beaucoup la fiction.
Par exigence de...
Non, parce que simplement, le problème d'Henri Girard et le problème de Pauline Dubuisson, c'est la manière dont on les a présentés à l'époque. On a donné d'eux une image, on a fait un portrait qui est complètement dénaturé, faux, et on s'en rend compte en grattant sous les journaux d'époque. Et Moi, je considère que le dossier d'instruction, qui est une mine d'or pour un écrivain, qui trace le portrait de quelqu'un, en l'occurrence souvent d'un meurtrier ou d'un suspect en tout cas, c'est quelque chose d'unique. Donc moi, je me sers de ça pour essayer d'être le plus proche possible de la vérité.
Donc vous êtes un redresseur de tort.
Je suis le redresseur de tort. Voilà.
On va continuer avec vous, Olivier Guez. On va plonger dans la vie de Mengele. On reviendra évidemment, on va parler de ça, de vérité, de fiction, d'histoire aussi. Mais d'abord, on écoute votre choix musical. Olivier Guez, vous avez choisi Kraftwerk, Trans-Europe Express.
Vous écoutez France Culture, Le Temps des Écrivains, par Christophe Onodibio.
Trans Europe Express, il vient de le dire, c'est Kraftwerk, le groupe Kraftwerk, c'est votre choix, Olivier Guez. Vous publiez La disparition de Joseph Mengele chez Grasset. Pourquoi ce choix musical?
Bon, d'abord c'est sublime, et deuxièmement parce que ça recoupe exactement mais à la fois mes obsessions et mes intérêts. C'est-à-dire qu'en fait, les membres de Kraftwerk ont l'âge du fils de Mengele, qui a un rôle important dans le livre, surtout à la fin. C'est-à-dire ce sont ces jeunes Allemands qui naissent dans l'immédiate après-guerre ou tout à la fin de la guerre et qui se retrouvent avec un héritage monstrueux à porter et qui essayent de se dépatouiller avec, à la fois avec leur propre histoire, mais aussi avec l'héritage de l'Allemagne et aussi avec cette espèce d'héritage culturel européen. Et Kraftwerk, pour moi, notamment ce morceau Trans-Europe Express, qui date de la fin des années 70, c'est-à-dire au moment de la mort de Mengele, mais aussi au moment où il y a le mythe Mengele le plus fort, exprime en fait toutes les contradictions de l'Allemagne de cette époque-là et de l'Europe de cette époque-là.
Le mythe Mengele, vous avez prononcé ce mot important, le mythe, on parlera de Simon Wiesenthal aussi, le grand artificier de la légende noire. Mengele, c'est passionnant hein, la disparition de Joseph Mengele, c'est haletant. Je rappelle Olivier Guez que vous étiez venu d'ailleurs ici pour un roman, Les Révolutions de Jacques Coscas, mais vous êtes aussi journaliste et essayiste. Certains essais avaient déjà pour thème la Seconde Guerre mondiale, L'impossible retour, une histoire des Juifs en Allemagne depuis 1945, c'est le titre d'un de vos essais. Vous êtes aussi scénariste et c'est aussi la Seconde Guerre mondiale puisque vous étiez intéressé.
Toujours l'après.
L'après. Fritz Bauer, un héros allemand qui a sa place d'ailleurs dans ce livre. Il est l'un des premiers à demander des comptes aux anciens nazis, des comptes à l'État allemand. Joseph Mengele, vous avez choisi de vous intéresser à lui, le médecin de la mort. De lui, l'histoire a retenu l'image d'un collectionneur d'yeux humains épinglé dans son bureau d'Auschwitz. La vérité est presque pire encore, puisque vous la reconstituez dans ce récit enquêté, donc qui vous a amené, vous le disiez, à Günzburg, en Allemagne, jusqu'à la Serra Negra au Brésil, en passant par Bariloche, sorte de Tyrol andin où les nazis aimaient rechausser leurs skis et penser à leur Autriche quand ils étaient autrichiens. C'est 200 pages, hein, la poursuite de ce monstre qui aura finalement toujours réussi à passer entre les gouttes de la justice des hommes. Ce qui frappe, Olivier Guez, c'est que vous avez choisi non pas de vous intéresser à la façon dont on devient bourreau, mais justement, vous le disiez, à l'après. Pourquoi cet angle de tir, en fait, et pour quelle révélation?
Parce que je voulais m'approcher du cœur des ténèbres, mais une fois que les ténèbres étaient tombées, d'une certaine manière. Mengele, c'est quand même un personnage très particulier. On a un peu évoqué le mythe, mais il y a un double mythe, Mengele. Il y a à la fois ce qu'il a fait à Auschwitz, c'est-à-dire à la fois c'est lui qui faisait le tri sur la rampe, et de l'autre côté, il y avait son espèce de laboratoire où il a essentiellement travaillé.
Le tri, donc, en fait, entre les...
entre ceux qui allaient directement à la chambre à gaz et ceux qui passaient justement par son laboratoire. Et lui était intéressé essentiellement par les enfants, notamment par des jumeaux, par des estropiés et par des nains. Donc tous ces gens, il les rassemblait, il a fait des expériences absolument effroyables sur ces gens-là, parce que son directeur de thèse l'a envoyé là-bas. C'est-à-dire qu'il fait partie d'un système, Mengele. Hein. Il n'est pas tout seul, c'est pas un docteur complètement cinglé qui procède à des expériences. Ça, c'est le premier mythe. Et justement, et le deuxième mythe, c'était son espèce de surpuissance après la guerre. Parce qu'on raconte encore que Mengele a semé les jumeaux justement en Amérique du Sud, qu'il avait des Amazones, qu'il avait un laboratoire au fin fond de la jungle paraguayenne.
Une sorte de colonel Kurtz.
Exactement, qu'il avait roulé en Mercedes, qu'il posait son pistolet sur les barres quand il arrivait. Et tout ça est absolument bidon. Et donc moi, j'ai voulu aller au-delà de ce double mythe, savoir exactement où cet homme avait été, pourquoi et comment il s'en était tiré, et comment il avait vécu finalement cet exil. Est-ce qu'à un moment, il est rattrapé par ses propres crimes? Est-ce qu'à un moment, la vie le punit ou non, en fait?
Il fallait aussi, justement, les écorner ou les dissiper, ces mythes, puisque Simon Wiesenthal prend cher, en fait, dans la disparition de Joseph Mengele. Vous racontez que lui raconte, au fond, n'importe quoi.
Non, mais j'ai une vraie admiration pour Simon Wiesenthal. Il faut comprendre que Simon Wiesenthal est un homme absolument seul, qui a un petit bureau dans le cœur, dans le centre de Vienne, et à lui tout seul, évidemment, il peut pas mettre la main sur des criminels qui échappent à tous les services secrets de l'État et de la planète. Alors effectivement, Wiesenthal va énormément broder sur Mengele. Un jour, il le voit sur une île grecque. Un jour, il part chez Nasser. Un jour, il est au Paraguay. Un jour, etc. Un jour, il y a des commandos de vengeurs venus de New York à bord d'un yacht qui arrive dans un hôtel qui s'appelle l'hôtel Tirol, encore une fois, dans la ville d'Encarnación, au Paraguay. Et au dernier moment, 10 minutes avant l'arrivée de ces vengeurs, un coup de fil anonyme prévient Mengele que les vengeurs arrivent. Et donc, Mengele s'enfuit, son lit encore tiède et le pyjama...
Vous avez de l'admiration pour lui, il n'empêche que dans le livre,
j'ai de l'admiration, il est quand même... parce que grâce à lui, on parle encore de, on parle de Mengele.
C'est-à-dire que ses fictions, ses propres, les fictions de Wiesenthal, les fantasmes de Wiesenthal ont permis finalement.
Il a tenu en alerte le monde entier. Notamment dans les années 60-70, où finalement personne n'a la moindre idée où se cache Mengele. Disons, personne n'a oublié Mengele, et surtout Mengele, qui lit les journaux, qui est tenu au courant un peu de tout ce qu'on raconte sur lui, vit dans une paranoïa absolue, notamment à cause de Wiesenthal.
On apprend beaucoup de choses dans ce livre, Olivier Guez, notamment comment la géopolitique finalement a sauvé, les intérêts géopolitiques ont sauvé presque Mengele, puisque quand Israël décide de se refocaliser sur le Proche-Orient, finalement on arrête les chasses aux nazis en Amérique du Sud, et donc finalement il reste tranquille, sauf qu'il est mangé par sa, non pas sa conscience, mais par la peur. Mais ce qui est intéressant, et je voudrais qu'on vous écoute aussi lire un extrait de votre livre, c'est que vous consacrez de nombreux passages à la vie fastueuse de Mengele, notamment à Bariloche, cette station de ski où les anciens nazis rechaussaient leurs skis et faisaient des soirées fondues. C'est la volupté presque de l'après-crime, l'impunité totale, où l'argent est très présent, les belles voitures, les femmes aussi. On vous écoute.
Tous se retrouvent un soir autour d'une fondue. Rauf a traversé la frontière chilienne pour féliciter les jeunes mariés. Les nazis parlent du bon vieux temps, pour la énième fois, et se souviennent de Richter, le savant atomique qui a bluffé Perron et englouti ses millions dans les réacteurs factices de son laboratoire secret, sur l'île d'Uemul, tout près d'ici, au large de Bariloche. Les anecdotes fusent, les verres teintent. Cops annonce qu'un gigantesque complot judéo-maçonnique se trame à la Maison-Blanche et au Kremlin. Mengele baille et enlace Martha. Il préfère le sexe palpitant de son épouse à cette compagnie virile qui exhale la mauvaise eau de vie. Le lendemain, Martha et Joseph grimpent et cheminent à travers clairières et futaies. Leurs pas crissent sur la neige qui tombe à gros flocons et ils s'arrêtent déjeuner sur un promontoire d'où ils devinent la vallée en contrebas. Mengele est au bord du précipice lorsqu'un soleil timide perfore la masse cotonneuse et que se dévoilent les sommets des glaciers, les lacs bleus, la nature enchanteresse. Pris de vertige, tel le voyageur contemplant une mer de nuages peint par Caspar David Friedrich, il écarte les bras, éclate de rire. Sa poitrine se dilate, son sang gronde, il en distingue les pulsations aux tempes. Martha lui parle mais il ne l'entend pas, absorbé par ses méditations, si heureux, si fier dans ce monde de ruines et de vermines déserté par Dieu. Il a la liberté, l'argent, le succès, Personne ne l'a arrêté et personne ne l'arrêtera jamais.
Voilà, Olivier Guez qui lisait La disparition de Joseph Mengele. C'est publié chez Grasset. Je voudrais savoir comment vous avez reconstitué justement cette vie. Vous en avez parlé un petit peu tout à l'heure. Il y a parfois des passages qui faisaient que trois lignes et que vous avez dû finalement dilater, expliciter par le travail romanesque. Vous dites, Olivier Guez, seule la forme romanesque, c'est à la fin du livre, quand vous citez les sources, me permettait d'approcher au plus près la trajectoire macabre du médecin nazi. En quoi cette forme romanesque permettait d'approcher plus près que l'historien ?
D'abord, je pense qu'un historien, si aujourd'hui on devait retravailler ou travailler sur la cavale de Mengele pendant plus de 30 ans, je pense qu'il faudrait un laboratoire d'historien pendant presque 10 ans. C'est-à-dire qu'il faudrait dépouiller toutes les archives ouest-allemandes, allemandes aujourd'hui, israéliennes, américaines, argentines, brésiliennes.
Et il y a ces carnets qui ont été vendus
plus
aux enchères.
Les carnets qui ont disparu, entre guillemets, puisque un vendeur anonyme l'a vendu à un acheteur anonyme il y a quelques années pour, je sais plus, $250,000. Donc ces carnets ont disparu aujourd'hui. Donc il faudrait une équipe gigantesque pour peut-être découvrir des choses qu'on ne sait pas. La forme romanesque me permettait véritablement d'épouser cette espèce de trajectoire, mais avec ma propre subjectivité. C'est-à-dire que tous les faits historiques sont avérés, j'ai lu énormément de choses. Par exemple, lorsque j'étais à Buenos Aires, je suis allé voir les archives de l'immigration argentine, et c'est très étonnant, c'est-à-dire vous donnez le nom, le pseudo de Mengele lorsqu'il arrive...
Grégor.
Helmut Grégor. Mmh. Et ce qui est assez intéressant... c'est qu'en fait, il s'appelle Grégor comme le cafard de la métamorphose de Kafka. Et ça, je m'en suis rendu compte, en fait, en écrivant le bouquin. J'avais pas pensé à ça. Et au tout début du livre, il y a une scène...
C'est comme Clouzot pour Génada, en fait. Il le retrouve
exactement,
à chaque fois.
Exactement.
Pour trouver Kafka à chaque fois, à vous.
C'est quand même très étonnant. Mais inconsciemment, en fait, il y a un cafard qui sort d'une bouche d'aération au tout début du livre et il l'observe. Et je me suis dit, mais oui, c'est Grégor, c'est la métamorphose. Cet homme devient un cafard en disparaissant d'Amérique du Sud. Donc, toutes ces choses-là, évidemment, un historien ne peut pas les écrire comme
ça. Et toutes ces choses-là, par exemple, le fait que Grégor vous fasse penser à Kafka, tout à l'heure, vous avez prononcé le nom de cette ville, Incarnación, au Paraguay, évidemment, la ville s'appelle Incarnación et la figure du mal s'incarne aussi dans cette ville. Tout ça, ce sont des choses qui stimulent, qui aimantent le romancier, parce que vous l'appelez roman,
Oui, bien sûr, mais je l'assume complètement. Mais on est dans le roman comme De Sang-Froid est un roman, c'est un immense texte littéraire, De Sang-Froid. Tout ça est vrai, enfin, il y a vraiment une ville qui s'appelle Incarnación au Paraguay, il y a vraiment un hôtel qui s'appelle l'Hôtel Tirol. Et en fait, je me suis rendu compte en m'intéressant à la vie de Mengele... que sa vie en Amérique du Sud est un véritable roman. Parce qu'il y a la famille, il y a les femmes, il y a sa femme qui le quitte, il épouse quand même la veuve de son frère, ça c'est une manigance du père Mengele, qui en fait a peur que la veuve du frère que Mengele détestait épouse un autre homme qui entrerait logiquement au conseil d'administration de la multinationale. Et donc son plan machiavélique, c'est que le fils parti en exil en Argentine épouse la veuve de l'autre fils, pour que les parts restent au sein de la même famille.
Et ça, il y a des sources de ça
ou absolument. C'est Ah oui, bien sûr. Ouais. Moi, je veux dire, quand j'étais à Günzburg, j'ai trouvé le livre d'un historien allemand qui s'appelle Sven Keller, qui a écrit une thèse sur Mengele et la famille Mengele à Günzburg. Donc tout ça est absolument établi. Il n'y a pas de mise en fiction de ces histoires de famille.
Alors, il y a la sexualité de Mengele qui est très présente aussi, puisque vous racontez la
traque de cet homme. Très présente, n'exagérons pas.
Elle est même sordide.
Bien sûr.
Je vous cite, par exemple. Il est dans la ferme, donc là, c'est la fin, il est au Brésil. Et donc, il y a cette fameuse guitare, donc une sorte de Thénardier, en fait, qui sont des Hongrois antisémites, donc qui ont une ferme au Brésil, et qui, en échange d'argent, et de plus en plus d'argent, protègent Mengele. Ça ne les dérange pas du tout, moralement.
Non, pas du
tout. Alors, Gita, donc, va coucher avec Mengele, et je voudrais, là, vous interroger là-dessus. Je cite d'abord le passage. Gita l'épie, gratte à sa porte, le harcèle régulièrement. Il ne peut rien refuser à la Bovary des tropiques la nuit, pendant que les garçons dorment, ou l'après-midi, dès que les employés ont le dos tourné. Une gâterie derrière un manguier. Tout ça, à un moment, vous décrivez aussi comment elle le chevauche. Là, évidemment, il n'y a pas de source là-dessus. On est parfois même dans le grand guignol avec cette Gita qui a mauvaise haleine, qui est horrible, et ce pauvre Mengele obligé finalement de céder sexuellement.
S'il ne cède pas, il a peur de prendre la porte.
Et là, c'est le romancier sur la sexualité de Mengele. Il fallait que vous la traitiez, il fallait que vous imaginiez, enfin, c'était que vous amusiez aussi peut-être avec ça. C'est un châtiment qu'il a.
disons que si on retrace la vie de 30 ans d'un homme en Amérique du Sud, à un moment se pose la question de la sexualité. Alors dans ce cas-là, si c'est un travail d'historien, c'est encore autre chose. À partir du moment où j'épousais la forme romanesque, c'était normal que je me pose la question. La vie sexuelle de Mengele, il n'y a pas de fantasme dans cette vie sexuelle. Il n'a pas une vie sexuelle particulière. Il a la vie sexuelle d'un homme seul au départ en Amérique du Sud, même si après il va se remarier, qui fréquente des anciens barbouzes, des anciens militaires, avec une espèce de représentation de la femme argentine sud-américaine, qui est assez classique, il n'y a rien de complètement dingue là-dessus. Et en fonction de ce que j'ai pu lire sur la Thénardière hongroise, donc Gita Stammer, qui effectivement s'ennuyait terriblement. En fait.
Donc vous avez inventé cette liaison ou
non, non, la liaison est avérée. La liaison semble avérée à 95%, je dirais, ou 99%. Il y a eu liaison. Après, et ce que je disais précédemment,
Philippe Génada,
le manguier, la gâterie derrière le manguier.
Parce que je suis allé à la ferme et que j'ai vu des manguiers. Et que là, c'est mon esprit qui.
Voilà, non, mais c'est intéressant parce que c'est vrai que.
J'ai vu la ferme. J'ai vu le mirador qu'il a construit. Voilà. Et donc, à partir de là, j'imagine des choses à partir d'un fait avéré.
Je relève ça, Olivier. C'est pas du tout anecdotique. C'est vrai que c'est la vie d'un homme, et on est dans la chair aussi de cet homme, pas uniquement dans sa conscience, ses souvenirs, ses justifications.
Il faut pas oublier que lorsque tous ces nazis, ces fascistes, ces oustachis partent en Amérique du Sud, ce sont des hommes jeunes, ils ont une trentaine d'années, ou à peine 40 ans. Donc évidemment que la question sexuelle se pose lorsqu'on raconte la cavale d'un criminel.
Vous citez la parabole d'Abel et Caïn, je vous cite encore, le voilà livré à la malédiction de Caïn, le premier meurtrier de l'humanité, errant et fugitif sur la terre, celui qui le rencontrera le tuera. Ou Kierkegaard, le châtiment correspond à la faute, être privé de tout plaisir de vivre, être porté au plus haut degré de dégoût de la vie. Est-ce que littérairement, au fond, avec ce livre, il y a aussi la volonté de donner une leçon, au fond, sur ces démons qui couvent toujours en Europe? Vous l'avez dit, il est le produit d'un système, c'est pas pour ça que vous le dédouanez de tout ce qu'il
Absolument
a fait.
Pas.
Est-ce qu'il y a aussi une leçon, finalement, une leçon philosophique, littéraire? Parler d'Au cœur des ténèbres, vous parlez, il y a beaucoup de littérature aussi. C'est vrai qu'on peut se demander en quoi ces grandes figures littéraires, en quoi Mengele a un lien, c'est vous qui le faites le lien, avec ces grands textes, Dante, la comédie, par exemple, la Divine Comédie, vous la citez aussi.
Bien sûr. Je pense que j'ai beaucoup fréquenté les musées pour préparer ce livre et je me suis rendu compte de l'omniprésence du mal dans la peinture européenne. Notamment le Jardin des Délices de Bosch, le troisième panneau, c'est l'enfer. Et Mengele appartient à ce tableau-là. Mais parce qu'il y a il y a une part de nous, enfin, on a tous cette part de nous. Et je pense que Mengele serait né 30 ans plus tôt ou 30 ans plus tard. Ce n'est pas un tueur né, c'est pas un tueur sadique, Mengele. Je pense que ça aurait été un sale type, un médecin à Munich qui aurait fait des sales coups à tout le monde, mauvais mari, mauvais père, mauvais tout ce que vous voulez. Mais je ne pense pas qu'il aurait agi comme ça. C'est-à-dire que, oui, il y a une part de mal, il y a une part de mal dans l'histoire européenne, et Mengele est très emblématique de ça. Et bien sûr que c'est vertigineux. C'est vertigineux parce qu'on sent bien qu'il y a des choses qui se passent aujourd'hui aussi en Europe. Et bien sûr qu'il faut se méfier.
Donc c'est un avertissement aussi?
Bien sûr que c'est un avertissement. Mmh. C'est valable.
Le romancier est là aussi pour avertir.
Bien sûr, je pense.
Mmh. Vous en pensez quoi,
pour
Philippe,
raconter une histoire, pour mettre
je suis tout à fait d'accord, pour avertir ou pour éclaircir ou pour et tous les moyens sont bons, c'est-à-dire que tout à l'heure on parlait de fiction, etc. Moi, il y en a pas dans le livre d'Olivier. Il y en a non seulement parce que il n'y avait pas le choix et puis parce que c'est la forme qu'il a trouvée. Tous les moyens sont bons pour arriver au but qu'on se fixe. Et en l'occurrence, oui, c'est pas simplement évidemment d'apprendre des choses ou de distraire ou d'une manière très large. C'est de rappeler qu'il y a un type quand même qui a pu est mort en 79, c'est ça.
Ouais.
Comme disait ce bon vieux poète Horace, docere et placere. On séduit, on fait plaisir, mais d'abord, docere, on enseigne. On va voir ce que vous nous enseignez. Vous êtes d'accord avec Horace?
Ah, tout à fait.
Voilà, docere et placere. Philippe Génada, La Serpe, c'est chez Julliard aussi. Roman sans fiction,
La non-fiction de Truman Capote me convient parfaitement. Parce que dans Exofiction, dont vous parlez tout à l'heure, il y a quand même fiction. Moi, je ne pourrais pas dire qu'il y a de la fiction. Non, c'est du réel retravaillé ou du réel réorganisé, mais de la fiction, non.
Du réel, c'est joliment dit, du réel réorganisé. Alors, on écoute votre choix musical. Alors, vous avez choisi Tristesse de Chopin, mais parce que il y a une raison précise.
Oui. Parce que quand le maire et les premiers habitants, les premiers gendarmes du village sont entrés dans le château, il s'est mis au piano pour
Henri Girard,
qui était donc le coupable tout désigné, s'est mis au piano pour jouer, et justement c'est là que c'est intéressant, à l'époque on a dit dans les journaux, ou même dans certains rapports de police, qu'il avait joué la marche funèbre de Chopin. Alors, Tristesse de Chopin, c'est presque pareil, on peut dire, sauf que non. Si on joue la marche funèbre dans ces circonstances-là, il y a carrément un côté cynique, parce que la marche funèbre, c'est tellement... C'est presque moqueur de jouer ça, alors que Tristesse de Chopin, c'est simplement triste. Donc, sur un tout petit décalage comme ça, si on joue la marche funèbre et si on joue Tristesse, on n'est pas dans le même état d'esprit.
Tristesse de Chopin, c'est le choix de Philippe Génada qui publie La Serpe chez Julliard. C'est l'interprétation de Murray Peraya. Vous disiez, Philippe Génada, on l'apprend d'ailleurs en lisant La Serpe, que c'est la musique que votre personnage réel, Henri Girard, connu sous le nom de Georges Arnaud, l'auteur du Salaire de la peur, joue au piano le matin du triple crime du château d'Escoir que vous racontez dans La Serpe.
Oui, une des choses qui a en premier lieu alerté les gendarmes et les premiers présents, c'est l'espèce de froideur, de détachement dont il a fait preuve alors qu'il avait sous les yeux les corps massacrés, parce que j'ai vu les photos dans le dossier d'instruction, c'est vraiment un carnage, de son père, dont il disait qu'il l'aimait beaucoup, de sa tante et de la bonne, et lui fume une cigarette, boit un coup, joue au piano. Et paraît surtout complètement froid, il ne pleure pas, il ne gémit pas, même pas. Lui expliquera plus tard que c'est parce qu'il était dans un état de stupeur, et puis surtout parce qu'il était entouré de gens qu'il ne connaissait pas et qu'il n'avait pas envie de leur pleurer dans les bras. Mais c'est encore une scène importante. Selon la manière avec laquelle on regarde la même scène, on peut penser que sa vie vient d'exploser complètement et on peut penser qu'il s'en fout totalement.
Alors dans La Serpe, on fait... mieux la connaissance d'un homme d'ailleurs qu'on connaît pas, parce qu'on connaît le film de Clouzot, on en parlait, du Salaire de la peur, mais on connaît pas l'écrivain. En fait, cet Henri Girard était un fils de très bonne famille, très riche, d'un physique assez déplaisant, et un rebelle, en fait, très vite, en fait, un rebelle à sa propre famille, que vous allez suivre. Alors, il va en Amérique latine aussi, point commun avec Mengele, d'Olivier Siguez.
La terre des bandits, l'Amérique latine.
Il va chercher des émeraudes, parce qu'il est ruiné à ce moment-là. Il a dilapidé toute la fortune dont il a hérité après le triple crime et après son acquittement. En 2 ans, il a tout claqué, tout vendu. Et on lui dit, il a un copain à moitié tordu, qui lui dit, Venezuela, il y a des émeraudes par terre, tu marches sur les émeraudes, donc... Et puis, il n'y a pas besoin de visa.
On a dit ça au Conquistador aussi.
Ouais. Et il s'est retrouvé, d'ailleurs, au milieu de... Parce que là-bas, il y avait toute une cohorte de... On les appelait les Tropical Tramps. Il y avait des clochards tropicaux, quoi. Des clochards tropicaux. Il y avait des collabos français qui s'étaient barrés pour pas se faire attraper. Il y avait évidemment donc des nazis qui traînaient un peu par là. Il y avait des échappés de Cayenne. Enfin, c'était vraiment un groupe boiteux et peu fréquentable.
Alors vous nous racontez tout de ce personnage, son enfance, la famille dans laquelle il grandit, ses premières amours chez les scouts d'ailleurs, avec une fille qui les faisait fantasmer et qui finira par épouser au grand dam de sa famille. C'est une grande fresque sociale, c'est aussi parfois des accents polars, puisque vous enquêtez, vous prenez votre voiture pour Périgueux et ce château d'Escoir où vous allez essayer de voir ce qui a pu se passer dans ce château. C'est aussi le portrait d'un homme aux vies multiples, avec toujours, je disais, votre trait, votre marque de fabrique, la mise en scène de l'écrivain enquêteur. C'était le cas dans le livre sur Bruno Sulac, c'était le cas dans le livre sur Pauline Dubuisson, La Petite Femelle. Et ces digressions, ces apartés qui sont toujours d'un humour irrésistible, vous ne vous sublimez pas en enquêteur. Vous disiez d'ailleurs Colombo
Du dimanche.
Du dimanche. Est-ce que l'humour est nécessaire quand on se lance dans un fait divers aussi atroce? Parce que La Serpe, vous l'avez choisi d'ailleurs comme titre, La Serpe, c'est l'arme d'un crime et d'un crime terrible.
Ouais, l'humour, je ne sais pas, mais en tout cas, disons, on peut traduire ça par une sorte de détachement ou de quelques pas de recul qui souvent force à la dérision ou à l'autodérision. Oui, c'est nécessaire quand on a les pieds qui baignent dans le sang, mais je pense que c'est nécessaire toujours, en tout cas pour moi. Moi, je ne peux pas vivre vraiment englué dans les... J'aurais pas les épaules assez solides. Donc, quelques pas de recul, pour moi, c'est pratique, c'est utile. C'est une des raisons pour lesquelles, par exemple, et j'en ai profité dans ce livre, je n'ai jamais pu écrire sur mon fils. Parce que j'ai pu écrire...
Oh, il est là pourtant, Ernest.
Justement, Ernest, il est là dans ce livre parce qu'il y a quelque chose de très important, je ne vais pas tout dévoiler, mais la relation entre Henri Girard et son père... Ouais. Qu'on avait minimisé, et quelque chose de très fort. J'ai découvert ça dans le dossier, dans leur correspondance.
C'est très attachant. D'ailleurs, on peut en dire un mot, hein. C'est-à-dire que le père d'Henri Girard reste finalement le seul vivant au départ, puisque la mère est morte.
Quand il avait 9 ans, oui.
Exactement. Et on voit ce père qui a du mal à être père, en fait, et qui doit quand même s'occuper de cet enfant. Est-ce que vous disiez tout à l'heure, je suis un redresseur de tort, le redresseur de tort. Est-ce que vous êtes lancé dans ce livre d'abord pour résoudre une énigme? En fait.
Ouais, une double énigme, c'est-à-dire d'abord effectivement par jeu presque, hein, comme on commence une partie de Cluedo, je me suis dit ce mystère est resté obscur complètement depuis 75 ans, il y a peut-être quelque chose dans le dossier qui permet de le résoudre, donc c'était pour m'amuser, et puis l'autre énigme c'était la personnalité d'Henri Girard et surtout celle de Georges Arnaud, qui a eu une vie très particulière vraiment, il a passé sa vie, il a écrit quelques livres, mais sinon il a passé sa vie à combattre toutes les injustices possibles, c'est-à-dire aussi bien judiciaires, le procès Marie Bénard par exemple, il est intervenu, que ce qui lui semblait des injustices pour les Algériens, il s'est mis aux côtés du FLN, il y a 2 jeunes gens qui sont morts sur le Mont-Blanc parce que les secours sont pas arrivés assez vite, il s'est lancé là-dedans mais comme un fauve, et c'est grâce à lui que le secours en montagne a été organisé ensuite, enfin en partie grâce à lui. Il y a quelque chose qui m'intriguait, je me disais ce type est coupable, parce qu'au début je pensais qu'il était coupable, il a tué tout le monde, il a bénéficié d'une incroyable erreur judiciaire à l'envers.
Défendu par Maurice Garçon.
Défendu par un génie, Maurice Garçon, c'est évidemment grâce à lui, parce qu'en 2 heures il a retourné toute l'opinion publique, il a été acquitté en 8 minutes, les jurés sont partis, les gens n'ont même pas eu le temps de fumer une clope dehors, il s'était acquitté. Et je me dis, et c'est étrange que ce type ait ensuite consacré toute sa vie à lutter contre l'injustice, et tout en étant très provocateur. Un jour, quand il a commencé à écrire dans les journaux, il a dit au rédacteur en chef du journal, il lui a dit « J'ai entendu dire que pour être journaliste, il fallait avoir tué son père et sa mère, je crois que j'ai pas trop mal commencé. » Enfin, c'est ça qui a aussi entretenu, à la fin de sa vie, il a avoué ses crimes carrément.
Qu'est-ce que vous avez appris alors sur Henri Girard qu'on ne savait pas sur lui? Qu'est-ce que vous avez découvert comme redresseur de tort, enquêteur, romancier?
Alors, premièrement, j'ai découvert comme redresseur de tort que c'était un écrivain incroyable, complètement oublié, qu'on ne lit plus du tout. Juliard, je suis très content parce qu'il a été édité dans cette excellente maison.
C'est ça, voilà, c'est quand même... Ça a joué finalement dans le choix, quand on se lance dans un projet, vous ne saviez pas, vous l'avez découvert
non,
pendant...
Non, être édité chez Grasset, j'aurais fait pareil. Ouais. Oui, je me suis rendu compte que tous ces livres avaient été édités, enfin la grande majorité, chez Juliard. Juliard va rééditer, là, au début du mois d'octobre, 3 de ses romans appelés romans américains, c'est-à-dire Le salaire de la peur, Le voyage du mauvais larron, qui est le vrai récit de ces 2 années au Venezuela et qui est un livre d'une poésie et d'une beauté incroyable. Et puis La plus grande pente, qui est une sorte de longue nouvelle qui se passe aussi en Amérique du Sud.
Et vous les préfacez?
Non, on m'a pas demandé en tout cas.
Bon,
j'ai fait une préface de 638 pages quand même.
Oui, mais c'est bien, on aimerait bien une préface de Philippe Zenada quand même.
Je vais voir ça.
Donc il y a aussi en fait une justice littéraire que vous rendez aussi finalement. Non seulement il y a sa culpabilité, l'histoire de La Serpe, mais au fond, vous faites... réémerger quelqu'un que vous considérez comme un grand écrivain.
Oui, que je considère depuis à peine 2 ans, hein, puisque moi-même je ne le lisais plus, mais qui était pourtant, parce que Le salaire de la peur, il était l'un des favoris du prix Goncourt quoi, quand il est sorti. Hein. Ce qui est fou d'ailleurs, parce que au mois de mai, Henri Girard est clochard, il n'a plus de chaussures, plus de dents. Il peut mettre 2 choses au clou, c'est son pantalon et sa machine à écrire. Donc il écrit pendant 2 semaines, après il reprend son pantalon pour pouvoir quand même prendre l'air un peu pendant 2 semaines. Et 6 mois plus tard, en octobre, il est l'un des favoris du Goncourt. Donc c'est un écrivain qui était très lu quand même. C'est pas l'écrivain maudit, mais qui a été sans doute d'ailleurs à cause de ses engagements politiques et de ses différents combats, qui a été petit à petit oublié et qu'on ne lit plus. Donc il y a ça. Et puis il y a aussi le personnage. En fait, moi, simplement, ce que j'ai découvert, c'est que ce type a été atrocement marqué à vie par un drame. Alors c'est l'inverse de ce qu'on soupçonnait de lui. C'est-à-dire que vraiment, la personne qu'il aimait le plus au monde, qui était son père, a été tué, il l'a vu haché comme un morceau de viande. Il a passé quand même 2 ans dans les prisons de Périgueux sous l'occupation à la prison de Périgueux, qui était un endroit mais immonde. Et toute sa vie, il a traîné l'ombre noire, le poids de la culpabilité. Les gens le regardaient en disant, il s'en est sorti, ce salaud, alors qu'il a tué tout le monde.
Je voudrais qu'on vous écoute lire quand même. Justement, on le disait, c'est aussi un écrivain que vous rendez justice. Et je voudrais qu'on vous écoute nous raconter, au fond, les origines du salaire de la peur.
Oui, c'est ça. C'est quand il revient à Paris complètement ruiné. Henri se souvient d'un type ravagé qu'il a rencontré une nuit dans un bar sordide de Caracas. Un vieillard maigre aux yeux rouges, qui avait 38 ans. Il lui avait alors raconté qu'il tenait ses cheveux blancs, ses 30 ans de plus, de 24 heures en camion quelques années plus tôt. Il devait transporter des barils de nitroglycérine qui risquaient de sauter au moindre chaos, jusqu'à un puits de pétrole en feu que le souffle de l'explosion était censé éteindre. L'atmosphère en Amérique du Sud, les tropical tramps, les putes, les salauds qui s'enrichissent sur le dos de ceux qui sont coincés là-bas, le tout assaisonné de suspense, de sueur, un camion qui peut exploser à tout moment... Ça devrait pouvoir faire un bon film. En deux jours, il rédige un synopsis de 3 pages et le remet à l'assureur en lui demandant 10 000 francs si ça lui convient. En 1950, c'est presque rien. Le cours du franc a dégringolé. 1 kilo de pain, par exemple, coûtait environ 3 francs en 40 et 10 ans plus tard, 35. Un manœuvre était payé 6 francs de l'heure en 1940, 93 en 1950. 10 000 francs, ce n'est même pas 15 jours de son salaire fictif de commis de chantier. La réponse traîne, Henri attend, espère, se lasse. Quand il retourne frapper à la porte de l'assureur, celui-ci ne sait même plus de quoi il lui parle, il a changé d'avis. Le cinéma n'était pas une bonne idée, ça lui a passé. Furieux, comme souvent, et certain qu'il tient quand même une bonne histoire, Henri se tourne de nouveau vers la littérature, tant pis, et fait un roman. Il emprunte du papier où il peut, 20 pages par-ci, 50 par-là, parfois bleu ou rose. Il l'écrit en 3 mois, avec quelques interruptions. Car s'il ne veut pas passer sa vie en caleçon et donc sortir de temps en temps, il doit envoyer Léla porter la machine à écrire au Mont-de-Piété et récupérer son pantalon en échange, ou de l'argent pour manger. Ça fait un peu bohème de carton-pâte, ou Aznavour, humble garni et tout le tintouin, mais ils en étaient vraiment là, béat et crevant la dalle.
Merci Philippe Génada pour cet extrait de La Serpe que vous publiez chez Julliard. La marque Génada, on l'a dit, c'est de vous mettre aussi dans le tableau. Et le roman s'ouvre d'ailleurs sur vous au volant d'une voiture de location avec un petit signe rouge qui s'allume et qui vous annonce que vous allez avoir des problèmes dans ce véhicule.
Peut-être.
Il y a toute une tradition qui montre l'écrivain au travail dans les romans, l'écrivain qui bricole, notamment je pensais à Javier Cercas, un écrivain que j'adore, dans L'Imposteur aussi, il raconte la façon dont il travaille. En quoi est-ce nécessaire pour vous de montrer l'écrivain à l'œuvre? Est-ce que c'est pour démythifier aussi cette figure de l'écrivain?
Oui, en partie pour ne pas me prendre pour le type qui va tout résoudre comme une espèce d'entité lointaine qui résout tout. Je veux me mettre dans l'action, puis il m'arrive que des choses grotesques ou pathétiques. Je me retrouve dans des situations vraiment un peu glorieuses. Et puis il y a aussi quelque chose d'autre qui est, moi aussi comme Olivier, je suis vraiment passionné depuis peu, mais par la période d'après-guerre, que je trouvais un moment très intéressant, et puis qui correspond au dossier d'instruction que je peux consulter, donc ça tombe bien. Mais je suis quelqu'un de vraiment du présent, je vis dans le présent. Donc je voulais pas que ce soit un livre lointain, je voulais qu'il y ait un fil tendu entre 1941 et aujourd'hui, et ce fil tendu, c'est moi, c'est-à-dire que j'évolue à Périgueux, ça m'intéressait vraiment d'un point de vue littéraire, romanesque, de superposer Henri Girard à Périgueux en 1941, et le petit détective Génada à Périgueux en 2016.
Olivier Guez, vous n'avez pas choisi de vous mettre, vous, en scène.
Non, j'y avais... Le plus compliqué pour préparer ce... Enfin, l'une des choses les plus compliquées, c'était comment j'allais raconter cette histoire, qui est quand même très dure, très, vraiment difficile. Je veux dire, quand on lit sur Mengele, on prend vraiment des claques, mais véritablement monstrueuses par moments. Non, j'aurais trouvé ça indécent, en fait, parce que c'est l'histoire de Mengele. Je pense que si on veut lire ce livre, on est intéressé par le devenir de Mengele en Amérique du Sud. On n'a pas envie... Je voulais pas montrer les coutures, et j'avais pas envie de parler de moi. En fait, je ne voulais pas m'associer à Mengele dans ce livre.
On pourrait dire ça pour La Serpe aussi.
On me le dit parfois.
Alors,
j'ai reçu,
qu'est-ce que vous répondez à Olivier Guez?
Hier soir, j'ai reçu un mail. L'histoire d'Henri Girard est passionnante, mais vos digressions sont insupportables.
Et alors justement, voilà. Non, mais c'est vrai, est-ce qu'on voulait les coutures? Finalement, sa vie est tellement géniale. Pourquoi la vie du petit détective Génada?
Parce que c'est ma manière de faire passer cette histoire, comme Olivier, sa manière, c'est justement de se mettre plutôt en retrait. Je pense que vraiment, chaque auteur, et j'imagine chaque peintre ou cinéaste, doit trouver sa façon de raconter une histoire, sa narration. Moi, je fonctionne comme ça, mais j'aime beaucoup, évidemment, la littérature qui fonctionne autrement.
Si on, moi, pour ce bouquin-là, je voulais un récit extrêmement âpre, quelque chose de très sec. Je voulais absolument pas de gras pour raconter cette histoire-là. Pour moi, c'était vraiment une plongée dans les ténèbres et je n'avais pas envie d'accompagner prendre le lecteur par la main pour raconter cette histoire-là.
Ouais, moi,
qui va très très loin, quand même.
Je pense que si je racontais dans le genre fait divers, qui est un peu ma spécialité, si je racontais l'histoire de Fourniret ou de Dutroux, j'irais pas me balader en sifflotant au milieu du livre, quoi. C'est aussi le personnage. Hein,
bien sûr, je dirais qu'un livre sur Mengele, c'est quand même difficile après de faire raconter sa passion pour l'Argentine, le football argentin ou le.
Bien sûr, mais vous auriez pu vous mettre en scène de façon, disons. Héroïque ou sérieuse, ça, je parle pas là d'humour, hein,
oui,
mais
oui,
vous auriez pu, ou comme c'est difficile d'accéder à certains documents, montrer les coutures, hein, ce que vous disiez
c'est
tout
vrai,
à l'heure.
C'est vrai,
mais non.
Finalement, pas pour Mengele en tout cas.
Je n'ai aucune imagination, vous dites Philippe Génada. Vous disiez tout à l'heure, moi, il n'y a pas de fiction, enfin, je veux que chaque chose sonne vrai. Céline disait que des histoires, il y en avait plein, les hôpitaux et les commissariats.
Oui.
En même temps, c'est peut-être là aussi que c'est grâce au commissariat, peut-être que vous avez trouvé la vôtre. Vous trouvez qu'on en fait trop avec l'imagination en littérature?
Alors, en tout cas, en France, en ce moment, on ne peut pas dire, parce que vraiment, 80% des livres qui sortent sont des faits divers ou des biographies ou des choses comme ça. Et moi, je m'interroge, je me demande pourquoi, parce que moi, j'en fais partie, hein, j'ai Bruno Sulac, c'est 2013, qui est donc une histoire vraie d'un gangster. J'ai fait partie de cette espèce de vague où tout le monde, là, c'est quand même ahurissant quand on regarde la rentrée littéraire.
Oui, je le disais tout à l'heure.
Je me demande pourquoi, parce que moi aussi, je me rends compte que ça me plaît. J'aime lire des polars et de la fiction, mais ça me plaît et je me demande pourquoi. Je me dis peut-être qu'il y a un besoin de réalité, de solide.
Pourtant, on est dedans tout le temps.
Dans la littérature. Oui, mais on est dedans, on n'a pas le temps de la regarder, on est pris dedans. Et je me dis que peut-être la fiction est prise maintenant par quelque chose qui prend quand même vraiment beaucoup d'importance, qui sont les séries ou le cinéma, ça a de l'importance depuis longtemps, mais peut-être que la place de la littérature se décale un peu, comme la peinture a arrêté d'être vraiment figurative quand on a inventé la photo, quoi.
Enfin, quand on regarde les grands succès de librairie aussi, c'est beaucoup, enfin, souvent de pure fiction, si on regarde
les
l'été.
Marc Lévy
ou Virginie Despentes, on est dans la fiction sur le réel, mais en tout
Virginie
cas, les personnages.
À cheval, oui, quand même. Ouais. Enfin, à cheval.
Sur l'époque. Mais comme Balzac ou comme Zola parlait de l'époque, mais avec des personnages qui sont pas des célébrités ou des gens qui viennent des pages d'histoire.
Oui, mais si
comme
on regarde.
Ou des écrivains qui ont vraiment publié, comme Girard.
Oui, mais il y a aussi Emmanuel Carrère, tout ça. Hein,
Olivier Guez.
Moi, en tant que lecteur, je suis content d'apprendre quelque chose en lisant une fiction, d'une certaine manière. C'est-à-dire que qui va lire une biographie de 500 pages sur Mengele aujourd'hui? Personne. Par contre, je pense que lire une fiction sur un personnage historique, aussi noir soit-il, à partir du moment où on voit que c'est quand même solidement étayé par des recherches, il y a quelque chose d'assez, vraiment, en tant que lecteur lambda, moi je trouve ça très intéressant. Je lirais pas nécessairement un compte-rendu du fait divers raconté dans la SERP. Par contre, une espèce de, une mise en forme.
Pourquoi? Parce que ça donne plus de... Parce que c'est l'inventivité aussi du romancier sur ce réel qu'on recherche, qui véhicule un certain plaisir.
Oui, mais moi je pense que c'est tout simplement le travail d'un artiste en général. On regarderait moins, la Sainte-Victoire si Cézanne ne l'avait pas montré autrement. Enfin, c'est
bien
une manière de montrer les choses à travers un filtre.
Ouais, complètement.
Dernière question, messieurs. Quelles sont les limites que l'on s'impose quand on manipule des matériaux vivants, quand on travaille sur d'autres vies que la sienne? Certains changent les noms, par exemple. Quelles sont vos limites, Olivier Guez?
Alors, même si ça serait formidable dans le cours du récit, je ne me permettrai jamais, en tout cas, sûrement pas sur un livre pareil, un tel personnage, d'inverser un petit peu le cours de l'histoire parce que ça m'arrangerait. C'est-à-dire, je peux inventer certaines choses, mais qui sont des détails ou qui décrivent des choses qui ont existé. Mais je ne créerai pas de personnage, je ne générerai pas contre ce que j'ai pu lire, parce que pour des raisons de narration...
Romanesque.
Ça non, ça non.
Philippe Génada.
Moi, mes limites sont très claires, c'est-à-dire que la littérature tient une place énorme dans ma vie, je fais rien d'autre que lire et écrire, grosso modo. Mais la vie, les gens, les êtres humains sont plus importants que la littérature. C'est-à-dire que jamais, contrairement à Clouzot par exemple, qui s'est foutu complètement de Pauline Dubuisson pour son film, moi, les gens, donc je change les noms, ou je tais certaines choses, mais je ne veux pas que mes livres puissent avoir des conséquences directes sur les gens qui les entourent.
Eh bien, merci Philippe Génada, et donc pour savoir vraiment qui a tué le père d'Henri Girard, eh bien il faut lire La Serpe. Je pense que vous tenez pas à dévoiler. C'est pas forcément les services secrets de Vichy. Enfin voilà.
Non.
Voilà. Oh que non, dit-il. Merci à tous les deux. Merci Olivier Guez.
Merci Christophe.
Je rappelle le titre de votre livre, donc La disparition de Joseph Mengele, c'est chez Grasset. Et Philippe Génada, La Serpe chez Julliard.
Merci Christophe.
Le temps des écrivains, c'est Avril Ventura, Anne-Laure Chanel, Cédric Châtelus à la technique. Vous pouvez nous suivre et commenter sur Facebook et Twitter, podcaster pendant un an et réécouter pendant 1000 jours sur franceculture.fr cette émission avec Olivier Guez et Philippe Génada.